Chapitre 3. Convaincre au quotidien. La rhétorique n'est donc pas l'apanage des professionnels de la communication. Inhérente à la parole, elle est partout. Tous les jours, il nous faut convaincre ou concéder notre conviction au fil d'une infinie variété de situations. Mais en dépit de cette diversité sans cesse renouvelée, la rhétorique n'est pas pour autant une jungle désordonnée. Au quotidien, les mêmes configurations reviennent inlassablement. Il nous faudra les comprendre si nous voulons pouvoir nous y adapter. Car nous ne mobilisons pas les mêmes outils, les mêmes techniques, les mêmes procédés selon le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous le verrons, être capable de repérer en un clin d'œil la dynamique dans laquelle nous évoluons, c'est déjà gagner en force de conviction. 1. Les acteurs. Avant de catégoriser les différentes dynamiques rhétoriques, il est important de bien comprendre les types d'acteurs qu'elles mettent en interaction. Cela sera, par ailleurs, l'occasion de définir avec précision des termes que nous retrouverons constamment et dont le sens peut se révéler déroutant. Auditeur et spectateur. Nous l'avons déjà mentionné, dans le traité de l'argumentation, Chaim Perelman définit l'auditoire comme l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influer par son argumentation. Le concept d'auditeur désigne donc tout simplement les individus que nous cherchons à convaincre, à l'écrit comme à l'oral. Prenons un exemple simple. Lors d'un procès au tribunal, les auditeurs sont les personnes qui décident de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. En l'occurrence, les jurés ou les magistrats. Ce sont eux que les avocats cherchent à convaincre. Autre exemple, moins intuitif, lorsqu'un homme politique publie un livre en pleine campagne électorale, ses auditeurs sont en réalité ses lecteurs. Des individus peuvent également assister à une entreprise de conviction sans en être l'objet. Ils se contentent d'être témoins des échanges. En termes rhétoriques, on dira d'eux alors qu'ils sont spectateurs. Lors d'un procès, c'est le cas des personnes qui viennent observer depuis les bancs de la salle et n'ont aucune influence sur l'issue du jugement. Les avocats ne se préoccupent nullement de savoir s'ils sont convaincus ou non. Orateur et interlocuteur. Nous avons choisi de définir le concept d'orateur en symétrie de celui d'auditeur, comme l'ensemble de ceux qui cherchent à influer par leur argumentation. Les orateurs, ce sont les individus qui cherchent à convaincre, à l'oral comme à l'écrit là aussi. Reprenons notre exemple précédent. Dans un tribunal, sont orateurs tous ceux qui prennent la parole pour emporter la conviction. Les avocats, bien sûr, en premier lieu, mais également les accusés, les victimes, et même parfois les témoins, dès lors qu'ils ne se contentent pas de livrer un témoignage, mais s'expriment au contraire dans l'intention de convaincre, ils se trouvent en position d'orateur. De manière moins intuitive, quand un jeune diplômé rédige une lettre de motivation à l'adresse d'un employeur, on dira également de lui qu'il est, à ce moment-là, un orateur. Lorsque deux orateurs interagissent, ils deviennent des interlocuteurs. Deux avocats qui se répondent dans leur plaidoirie, deux polémistes qui s'affrontent lors d'un débat télévisé, deux amis qui se chamaillent sur le choix d'un restaurant, tous sont interlocuteurs. De manière moins intuitive, un orateur peut parfaitement s'exprimer seul tout en ayant des interlocuteurs. Quand les candidats d'une élection prennent la parole en meeting, ils sont seuls sur scène. Mais ils en profitent généralement pour répondre aux attaques de leurs adversaires, tout en ne se privant pas de lancer à leur tour quelques saillies bien senties. Bien que ces interactions se déroulent en des lieux et des moments différents, elles font tout de même deux, en termes rhétoriques, des interlocuteurs. L'affectation des rôles rhétoriques. L'intérêt de ces définitions, pour l'analyse rhétorique d'une situation de conviction, consiste en leur caractère dynamique. Les rôles joués par les différents individus ne sont jamais fixés à l'avance. Ils dépendent entièrement du contexte et des interactions. Prenons un exemple. Étude de cas numéro 1. Assemblée nationale. 2h du matin. Voilà des heures que les députés débattent d'un texte budgétaire particulièrement complexe. L'un d'eux se lève pour présenter son amendement. Il le défend avec la fougue que lui inspire la passion et la fatigue. Depuis le cœur de l'hémicycle, le ministre répond à la proposition. Il y est opposé. Le président de l'Assemblée demande le passage au vote. Les députés doivent arbitrer entre les arguments avancés par leurs collègues et par le ministre. Ce dernier l'emporte, l'amendement est rejeté. Décryptage. Dans cette séquence, le défenseur de l'amendement et le ministre sont à la fois orateurs et interlocuteurs. Ils ont pour auditeurs les autres députés présents dans l'hémicycle. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'accepter ou de rejeter la proposition et qu'il s'agit donc de convaincre. Les quelques téléspectateurs insomniaques qui assistent à cet échange depuis leur canapé ne sont que spectateurs. Les discours prononcés ne leur sont aucunement destinés. Étude de cas numéro 2. Assemblée nationale, 15h de l'après-midi. La séance de questions au gouvernement commence. Venus en nombre, les journalistes espèrent une séquence forte qu'ils pourront rediffuser dans le journal du soir. La parole est donnée à un député de l'opposition. Durant 3 minutes, il interpelle le gouvernement, tonne, vilipende, vitupère contre la gestion calamiteuse du pays. Chacune de ses saillies est ponctuée par des applaudissements de ses alliés et des huées de ses adversaires. Dans le vacarme qui se prolonge, un ministre se lève. D'une voix calme et sèche, il énumère les mesures déjà prises par son gouvernement, rappelle la bonne santé des indicateurs économiques et condamne la question caricaturale du député. Quand il se rassied, l'Assemblée résonne encore des cris scandalisés de l'opposition et des acclamations victorieuses de la majorité. Décryptage. Dans cette séquence, le député et le ministre sont à nouveau orateur et interlocuteur. En revanche, les autres députés présents ne sont aucunement des auditeurs. Ils se sont déjà forgé leur jugement sur l'action globale du gouvernement. Rien de ce qui sera dit ne pourra les faire changer d'avis. Ils savent pertinemment qu'ils assistent à une joute dont les rôles sont connus depuis longtemps. Selon qu'ils participent ou non aux interpellations venues de l'hémicycle, ils font donc soit partie des interlocuteurs, soit ne sont que de simples spectateurs. Qui sont alors les auditeurs? La réponse est double. D'une part, les journalistes, présents dans les tribunes, dont il s'agit de marquer les esprits afin qu'ils rediffusent la séquence. D'autre part, les citoyens assis devant leur télévision, dont il faut gagner les voix en vue des prochaines élections. Voilà comment, en un même lieu, avec les mêmes individus, il est possible de voir se déployer des situations rhétoriques totalement différentes. 2. Les dynamiques. Orateur, interlocuteur, auditeur, spectateur. En nous appuyant sur ces 4 types d'acteurs, il est possible de ramener l'inépuisable diversité des situations de conviction à seulement 4 dynamiques rhétoriques différentes qu'il est absolument crucial de savoir distinguer en un clin d'œil. La dynamique monologique. Ce sont les situations les plus simples, celles dans lesquelles un orateur cherche à convaincre des auditeurs silencieux en l'absence de tout interlocuteur. Il s'agit d'un contexte unilatérale, l'orateur ne subit aucune contre-argumentation. La dynamique monologique est donc celle des discours, des allocutions et des présentations. Le manager présentant un projet à son équipe, l'entrepreneur s'adressant à des investisseurs, l'éditorialiste lisant son billet à la radio, le vidéaste se livrant à un plaidoyer sur YouTube. La rhétorique écrite est, elle aussi, principalement monologique. Le plus souvent, l'écrivain s'adresse à ses lecteurs en l'absence de toute contradiction. La dynamique délibérative. Il s'agit des situations dans lesquelles des individus sont, les uns pour les autres, tout à la fois orateurs, interlocuteurs et auditeurs. Ce sont donc les contextes dans lesquels nous échangeons avec des personnes qui sont en désaccord avec nous, dans l'espoir de parvenir au consensus. Chaque orateur défend sa position et cherche à convaincre ses interlocuteurs, tout en admettant l'éventualité, fût-elle infime, de devoir accepter de se laisser soi-même convaincre. La dynamique délibérative est celle des situations où la conflictualité est exclue, mais où l'accord est nécessaire. C'est elle qui, en cas d'échec, mute progressivement en négociation. Nous la rencontrons au quotidien. Décider d'une destination de vacances avec notre groupe d'amis, tenter de convaincre notre compagne ou compagnon de passer le samedi soir blotti sur le canapé plutôt que dans une boîte de nuit huppée, essayer de faire prévaloir notre proposition plutôt que celle d'un collègue dans la conduite d'un projet. Quels que soient nos désaccords initiaux, il faudra bien parvenir à les trancher afin d'aboutir à une solution acceptée par tous, qu'il s'agisse d'un consensus rhétorique ou d'un compromis négocié. La dynamique compétitive. Elle renvoie aux situations dans lesquelles plusieurs orateurs sont, les uns pour les autres, des interlocuteurs sans être des auditeurs. Ils confrontent leurs positions tout en sachant n'avoir aucune chance de se convaincre mutuellement. L'existence d'une telle divergence inconciliable peut s'expliquer de nombreuses manières. Des valeurs trop éloignées, des intérêts trop divergents, des opinions trop arrêtées, des égos trop imposants. Quant à leur auditoire, il est en réalité extérieur au débat. Ce sont les individus qui assistent silencieusement à l'échange et devront le trancher. Les orateurs ne se contentent donc pas de dialoguer, ils s'affrontent, cherchent à se vaincre afin de convaincre ceux qui les écoutent. Autour de la table, les contradicteurs se changent en adversaires. Dans une telle situation, montrer que nous avons raison revient à faire comprendre que les autres ont tort, et inversement. La dynamique compétitive est celle des grandes joutes rhétoriques. Les tribunaux, où les avocats se disputent l'adhésion des juges ou des jurés, les débats politiques, où les candidats se disputent les suffrages des électeurs, les assemblées législatives, où les parlementaires se disputent les voix de leurs pairs. Mais elle n'est pas pour autant l'apanage des professionnels de la parole. Nous y sommes confrontés au quotidien. Prenons un exemple, aussi concret que douloureux. 5 frères et sœurs se réunissent afin de décider ce qu'ils feront de la maison familiale après le décès de leurs parents. Dans ce genre de situation, il est rare que tous les individus concernés aient des préférences arrêtées. En l'occurrence, imaginons qu'un des frères soit très attaché à la maison et désire absolument la garder pour en faire un lieu de vacances familiales. Au contraire, un autre préférerait la vendre afin de couvrir les frais de succession et récupérer un peu d'argent. Les 3 dernières personnes confessent n'avoir pas une opinion particulièrement assurée. Le déroulement du dîner est couru d'avance. Les 2 frères vont s'affronter, chacun espérant rallier le reste de la fratrie à sa cause. Autre exemple. Il arrive que, dans le cadre professionnel, 2 collègues ne parviennent pas à se mettre d'accord malgré plusieurs heures de discussion. L'une des solutions qui s'offrent à eux consiste à organiser une réunion avec leurs responsables, confronter leurs arguments et accepter ensuite son arbitrage. Ne nous y trompons pas. L'affrontement rhétorique n'est pas le propre des avocats, des militants et des politiciens. Il fait aussi partie de notre quotidien. La dynamique conflictuelle. Il s'agit des situations dans lesquelles plusieurs interlocuteurs confrontent leurs positions tout en sachant par avance qu'ils ne trouveront jamais un terrain d'entente. La différence avec la dynamique compétitive est la suivante. Ici, il n'y a aucun auditoire extérieur à convaincre. Nous nous trouvons donc dans un cas limite où il n'existe aucune possibilité de trouver un accord, de résoudre le différend ou de prendre une décision. Seul subsiste l'affrontement, la violence et le conflit. Hélas, cette situation n'est que trop fréquente. C'est la rhétorique des discussions politiques trop passionnées, des dîners de famille trop enflammés, des fins de soirée trop arrosées. Celle qui s'impose lorsque, prenant l'apéritif avec des amis, l'un d'eux soutient que le rôle naturel des femmes est de s'occuper des enfants. Nous l'accusons en retour de misogynie, nous nous invectivons avec violence, seulement pour constater de longues minutes plus tard que nous sommes désormais seuls dans le salon. Les autres convives nous ont laissés à nos tensions. D'un point de vue rhétorique, la dynamique conflictuelle est une absurdité. Il n'existe aucun intérêt rationnel à confronter nos positions en l'absence de toute personne dont nous cherchons la conviction. Au mieux, nous perdrons notre temps. Au pire, des relations. Pourquoi alors en faire notre pain quotidien? Selon le chercheur Marc Angenot, ces dialogues de sourds témoigneraient de notre besoin irrépressible de nous justifier. La seule chose qui nous importerait, ce serait de hurler à la face du monde et au visage de notre interlocuteur que nous avons raison. Qu'ils finissent ou non par en convenir n'aurait au fond que peu d'importance. La dynamique conflictuelle repose donc sur le déploiement d'une rhétorique jouissante mais impuissante. Faute de véritable auditoire, elle existe pour le seul plaisir de l'affrontement, sans jamais mener à la satisfaction de la conviction. S'adapter aux dynamiques rhétoriques. En tant qu'oratrice ou orateur, il est crucial d'apprendre à repérer, au premier coup d'œil, les dynamiques rhétoriques dans lesquelles nous nous situons. Chacune d'elles appelle en effet un ensemble de pratiques spécifiques. Les situations monologiques exigent, en premier lieu, que nous adaptions notre argumentation à l'auditoire auquel nous nous adressons. Les situations délibératives nécessitent, quant à elles, une approche très précautionneuse de la contradiction dans la mesure où les individus que nous affrontons sont aussi ceux qu'il nous faut convaincre. À l'inverse, les situations compétitives autorisent des techniques beaucoup plus agressives, consistant à rechercher la disqualification de l'argumentation adverse, voire le discrédit de l'interlocuteur. Enfin, confrontés à une situation conflictuelle, nous devrions nous demander si l'affrontement présente un quelconque intérêt ou s'il ne vaudrait pas mieux nous contenter d'acter le désaccord, puis de passer à autre chose. Analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons, par choix ou par accident, identifier les rôles joués par les différents acteurs présents, savoir adapter en conséquence notre comportement, telle est la première étape, cruciale pour emporter la conviction.